Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
Salut tout le monde, salut JP.
Et pour ce nouvel épisode, le septième déjà de la saison 4, on vous fait un au son de la cloche et un l'instant économie. Vous allez voir, là, le deuxième sujet, rester à l'écoute, va être assez d'actualité pour nos auditeurs nord-américains avec le Super Bowl. On enregistre ça justement ce dimanche 13, juste au préalable du Super Bowl. Donc vous allez voir qu'on a un deuxième sujet qui est assez marqué par cet événement, assez notoire. Et vous le savez, on est fan de foot, mais également fan autant de foot slash soccer que de foot américain. Donc je serai à l'écoute de manière très attentive ce soir. Je crois que Gab, toi d'ailleurs également. Mais avant toute chose, et pour lancer l'épisode là, qui va également inclure, comme on l'a dit, le haut son de la cloche pour commencer, je te laisse faire le disclaimer très important, surtout pour le premier segment d'aujourd'hui.
Oui, ben, étant donné qu'on va parler évidemment d'une compagnie listée, évidemment, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle, il s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert, conseiller financier, planificateur financier, quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations pour faire les meilleures évidemment, décisions pour votre portefeuille. J'en profite, tu m'inclus, mon cher JP, dans les fans de football américain. Bon, non, je ne suis pas non plus un expert, j'y connais un petit peu, là, on est amateur chaque année, là, on le sait, là, je pense que d'ailleurs on l'avait dit aux auditeurs, là, mais de fantasy football, donc, qui est comme un jeu qui se base sur les scores réels, de savoir exactement, on fait des duels, en tout cas, on a notre petite ligue depuis quelques années maintenant, donc non, je suis ça, mais bon, je ne suis pas non plus un expert, donc vous m'excuserez si ce que je dis n'est pas tout à fait parfait, là, mais bon, enfin, je vais essayer de faire mon mieux, en tout cas, pour la deuxième période, mais je pense qu'on est prêt, du coup, pour parler de notre premier sujet.
Absolument. Donc, lançons ça en force avec le haut son de la cloche. Parfait. Donc, tu l'as bien dit, Gab, là, dans le disclaimer, on veut faire un petit portrait sur une compagnie. Personnellement, c'est un sujet que j'avais dans les banques de sujets depuis quelques temps et je vais vous expliquer assez rapidement pourquoi. On veut vous parler de Walt Disney Company. The Walt Disney Company, DIS ou DIS en termes de ticker au niveau de leur listing. C'est une compagnie qui m'a beaucoup intéressé et encore une fois, je ne recommande pas le titre, mais je recommande fortement la lecture d'un livre là, qui est... Le titre du livre s'appelle « The Ride of a Lifetime » de Robert Iger ou Bob Iger, qui est le CEO de la compagnie entre 2005 et tout récemment 2020, là, juste dans le tournant de la pandémie. Il a remis ses fonctions pour prendre sa retraite, donc un excellent livre. Encore une fois, je suis un grand fan de lecture là, biographique de CEO, ça c'est mes passe-temps. Gab est un fan de lecture de chiffres et d'état financier, moi j'ai peut-être plus l'intérêt qu'Ali là-dessus. Mais je voulais effectivement qu'on fasse un volet sur cette compagnie-là, un peu le portrait de Disney présentement, qui a quand même des points assez intéressants à discuter, et aussi un petit peu d'aborder qu'est-ce qui a amené Disney à être la compagnie qu'elle est aujourd'hui. Sinon, on va pas retourner 98 ans en arrière, là, ça va être le centième, je crois, en 2023, là, donc on va pas retourner si loin, mais juste de voir un peu, surtout dans la période où Iger était en tant que CEO, là, qu'est-ce qui est arrivé avec cette compagnie-là. Donc, je l'introduis, c'est la fameuse compagnie justement créée, là, je crois que c'était en 1923 pour être exact, par Walt et Roy Disney, dont Walt Disney qui était effectivement là, beaucoup plus l'esprit créatif et Roy qui était plus l'esprit administratif là-dedans. La compagnie a eu un IPO, si je ne me trompe pas, en 1957, donc le 12 novembre 1957, à 13,88 là, initialement lors de leur listing initial. Cette compagnie-là, encore une fois, faisait dans l'entertainment en grande partie au tout début dans l'animation. A évolué là, énormément par une approche de croissance axée sur les acquisitions. On en parle sous peu, là, vous allez le voir, autant sous Iger, donc de 2005 jusqu'à 2020, comme on l'a dit, mais également durant la période de son prédécesseur, le monsieur Michael Eisner, de 1984 à 2005. Donc, vous pouvez le voir assez rapidement, les deux derniers CEO ont fait là, des dizaines et des dizaines d'années dans leur rôle. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez intéressant là, pour une compagnie de l'envergure de Walt Disney, d'avoir autant de stabilité au niveau de leur gestion. Je vais peut-être te passer Gab tout de suite là, si tu veux parler un petit peu des chiffres, je pourrais faire un petit portrait également là, de la compagnie qui a évolué vraiment énormément au fur et à mesure des acquisitions. Donc c'est quand même intéressant de plonger un peu dans les différentes divisions là, qui présentement sont sous la gestion là, de Bob Chapek, nouveau CEO comme on l'a dit, que lui aussi je crois que ça fait 26 ans qu'il était dans la compagnie là, donc c'est très axé sur des personnes d'expérience qui font partie de Disney depuis des années. Donc peut-être Gab, si tu as des chiffres actuels sur la performance de la compagnie ou les résultats.
Ouais, bah ce qui est assez drôle, c'est que tu as mentionné le prix de l'action qui était à ses débuts.
13,14. Ouais.
Aujourd'hui, on est à peu près à 150 $, là, en sachant que le maximum avait été atteint en fait. Bah c'est en début de en ce début d'année en fait. Je crois que c'était en fait en début de l'année passée, pardon, où c'était aux alentours des 190 $, 185. Là, vous m'excuserez, j'ai pas repris le chiffre exact. Ce qui est intéressant avec Disney, tu l'as bien dit, c'est leur diversification. On peut penser que Disney, c'est avant tout une société qui fait de l'entertainment. Donc tu l'as dit, les Disney qu'on connaît tous. Moi, quand j'étais gamin, j'étais très fan de Mulan, c'était mon préféré, là, mais il y en avait. Vous avez tous évidemment votre Disney préféré, là, rendu là. Comment dire, la balle est dans votre camp, et c'est quelque chose de très personnel. Et je te dirais, au-delà de ça, évidemment, Disney s'est énormément diversifié. Donc on le sait, les parcs d'attractions, c'est leur, je pense, leur business principal. Ils ont évidemment Disney World, qui est le plus gros, donc qui est basé à Orlando en Floride. Donc c'est un parc évidemment immense qui attire des millions de visiteurs à chaque année. En fait, c'est le plus gros parc d'attractions au monde, à mon souvenir. Évidemment, ça attire, évidemment, ça a boosté vraiment toute l'économie de la région. On le sait que, pardon, pendant la pandémie, c'était un autre problème, une autre paire de manches. Et évidemment, ces parcs-là, ils ont soit dû fermer, soit ouvrir à perte. On sait que la Floride a quand même été un des États qui a quand même voulu garder le plus possible les tours, en tout cas les commerces ouverts, parce qu'évidemment, le tourisme est évidemment un des gros facteurs de croissance dans la région. Vraiment. C'est ce qui produit évidemment des sources de taxes aussi, donc tout ça est lié. Et surtout la ville d'Orlando évidemment est très axée le tourisme. Donc c'est vrai que Disney en tout cas est vraiment dans ce. On savait aussi qu'en Europe ils ont évidemment Euro Disney, qui est d'ailleurs je crois une filiale. Donc ça appartient une partie à Disney, puis une autre partie ça appartient à des actionnaires européens, là, donc. Évidemment, ils ont des noms commerciaux évidemment là-dessus sur la marque Disney. Donc Euro Disney, ça, je crois que c'est à Marne-la-Vallée, donc pas très loin de Paris. Je vais être franc avec toi, JP. Moi, je suis pas du tout parc d'attractions, donc je pourrais pas te
Non, effectivement.
dire lesquels sont à faire. Je sens malade quand je fais ça, donc ça me c'est pas loin de là de m'intéresser. Et c'est là où on revient évidemment beaucoup plus sur l'entertainment, au-delà évidemment de l'expérience en fait Disney. Il y a aussi le côté vidéo. Et là, le côté vidéo et cinéma, c'est vrai que là, on le connaît tous. On sait que Disney possède, je pense, la plus grande chaîne câblée au fait aux États-Unis, qui s'appelle ESPN, qui est une chaîne de sport dédiée sur le sport. Donc, c'est-à-dire Entertainment and Sport Network, quelque chose comme ça. ESPN est connu évidemment pour ses chaînes de câble, donc auxquelles il diffuse évidemment des matchs, des résultats aussi. Souvent, c'était à l'époque. Tu branchais ESPN, puis tu avais les résultats, un peu comme l'équipe TV là, chez nous en France, là, mais où tu as tous les résultats, ou TSN par exemple ici au Canada. Là, mais c'est d'ailleurs, je crois que ça appartenait à un moment
Absolument.
donné à ESPN. C'était un joint venture avec Bell Media, là, qui est une compagnie canadienne. Et tu vois, ils sont vraiment diversifiés. Là, en ce moment aussi, Disney Plus, ça a été un vrai succès commercial, même si un peu en dessous des espérances des investisseurs. Disney Plus, c'est la nouvelle plateforme OTT de Disney dans laquelle bah, tu peux regarder un peu comme à la Netflix des films, des séries. Ce qui est bien, c'est qu'évidemment, ils ont un catalogue de films qui est gratuit, qui est illimité. Pour eux, ils diffusent que leur propre contenu, que leur marque commerciale. Et en plus, ESPN Plus, et là, ils viennent rajouter le côté sport. Donc, c'est tout un, comment dire, un truc qui fait qu'aujourd'hui, bah, Disney, je pense, est pas mal diversifié. Ce qui fait que, bon, ils ont eu évidemment beaucoup de difficultés pendant le Covid, mais le fait qu'ils soient exposés à plein de produits, toujours dans l'industrie de l'entertainment, bah, ça fait qu'aujourd'hui, ils sont, je pense, en bonne position. Tu vois, au niveau des ventes, c'est vrai que le premier trimestre de 2022, parce qu'ils ont une année fiscale, je crois, qui prend fin en fait en tout cas le. En 1er janvier, mais c'est décalé d'un quart, là, tu m'excuseras, mais s'il l'appelle le Q1 2022. Et bah, tu vois, ce dernier, tu vois, les recettes ont été records depuis quand même le début de la pandémie. On est revenu à un semblant de normalité, je pense aussi, par des restrictions un peu plus faibles, évidemment, surtout sur le côté parc de loisirs. On sait que les résultats ont été très très bons et ça a satisfait pas mal les investisseurs cette semaine. Donc, je pense que c'est. Comme je te dis, ils sont pas mal positionnés au niveau de leur diversification.
Ben exact. Puis tu sais, tu l'as bien soulevé, puis c'est un peu le volet que je voulais rajouter sur la structure de la compagnie, puis tu l'as assez bien énuméré dans la partie un peu résultat ou plus chiffres. Disney a toujours été reconnu pour fonctionner en fonction de son fameux studio de cinéma. T'sais, sans nommer exactement le nom de leur division, là. Il y en a une qui est très cinéma, il y en a une qui est très télévision, ESPN, tu l'as dit, il y en a une qui est très parc et merchandise, là, tout ce qui peut dériver, encore une fois, parce qu'il y a beaucoup de produits qui vont vendre, on s'entend, liés, encore une fois, aux différents films qu'ils détiennent, aux différentes séries qu'ils détiennent. Et techniquement, c'est exactement ça qui a fait le driver. Ils vont dire, si Walt Disney fait, au niveau cinéma, fait de très bons films, eh bien à ce moment-là, ils vont être en mesure de faire de très bonnes séries ou du très bon contenu télévisuel, en plus également de faire des revenus qui vont être en croissance au niveau de leur parc et au niveau de leurs produits de consommation, etc. Donc, l'axe central de Disney, et c'est un peu ça qu'on veut parler aussi au niveau des acquisitions, c'est une compagnie qui a vraiment dû trouver une manière de continuer à maintenir cette structure-là. Ça prend du bon cinéma pour qu'il y ait de la bonne télévision et qu'il y ait du bon contenu et des parcs d'attractions, etc. C'était presque une cascade qui a toujours été définie. Lorsque Disney va bien, c'est que le cinéma va bien. L'enjeu que Disney a eu, et encore une fois dans le livre là, que je vous ai introduit, Bob Iger le présente assez fréquemment, de dire, ben, Disney a eu pendant plusieurs années des problèmes avec leur talent. Il était tellement d'avance, on peut dire, au niveau de l'entertainment, justement, dans l'industrie du cinéma, de la télévision, etc., qu'à un certain point, ils ont vraiment pris du retard. Ils se sont un petit peu assis sur leur laurier, pour ne pas nommer l'expression, et ils ont dû trouver une stratégie dans le but de continuer à faire leur place et à compétitionner adéquatement. Et c'est là où la stratégie qui a été définie, et c'est comme on l'a dit à la fois Iger et son prédécesseur Eisner qui l'ont mis en place, c'est par des acquisitions. Et la trame, et je vais vous en nommer quelques-unes là, pour que vous voyez l'ampleur, encore une fois, de ce genre d'acquisition-là, c'était vraiment de faire des acquisitions dans le but de ramener de l'innovation et des talents au sein de Disney. Et si Disney en est au point où elle est maintenant, tu l'as bien dit, Gab, les performances vont relativement bien malgré la pandémie. Et également, les différentes innovations récentes, ESPN+, etc., fonctionnent également très bien. Disney+, comme tu l'as dit aussi. C'est vraiment parce qu'ils ont réussi à faire des acquisitions qui avaient du bon sens. La première notoire, c'était Capital Cities, plus spécifiquement le ABC Inc., qui a été faite, si je ne me trompe pas, en 96, en février 96, pour 19 milliards de dollars, dont le segment ESPN, justement, qui est arrivé sous la bannière de Disney, et dont également M. Bob Iger est arrivé. Iger travaillait pour ABC pendant plusieurs années. Ils ont décidé de faire l'acquisition et son talent de gestionnaire ou de visionnaire était pris en compte parce qu'au fur et à mesure, à partir de l'acquisition en 96, il est devenu CEO. Donc, une stratégie très télévision, l'acquisition d'ABC, on ne se le cachera pas, mais quelque chose d'assez notoire, des gros investissements avec un 19 milliards de dollars US. Une deuxième, assez intéressante à noter, puis Gab, c'est un point là-dessus, n'hésite pas, Pixar, 2006, mai 2006, 7,4 milliards qui a amené Steve Jobs, qui était à
C'est
l'époque
vrai?
le CEO de Pixar. Steve Jobs était rendu l'actionnaire principal ou un des actionnaires principaux de Disney suite à cette transaction-là. Et il était même sur le board de Disney d'ici effectivement à son décès, malheureusement. Et Jobs et Iger avaient une relation qui était effectivement là, très, très, très proche. Donc on peut dire que Disney a eu, encore une fois, le fameux l'aspect visionnaire, réinventer Disney vient en grande partie de Pixar, mais également du fait que Iger s'est énormément inspiré de son bon ami Steve Jobs, qui, on le rappellera, a drivé Apple vers les plus hauts sommets, là. Donc Pixar, énorme transaction. Je vais nommer les autres vite, vite, puis Gab, tu pourras en rajouter, c'est quelque chose. Hulu, le 30 avril 2009. Marvel, très notoire, décembre 2009 pour 4 milliards de dollars, qui a amené effectivement, à l'exception de quelques-uns qui étaient déjà vendus, mais la majorité des grandes bannières de super-héros sont tombées sous le giron de Disney. Et une autre notoire, Lucasfilm, avec les Star Wars en décembre 2012, 4,05 milliards de dollars également. Donc, George Lucas a littéralement vendu un petit peu sa propriété intellectuelle, si on le veut, là, à Disney. Donc, Disney est vraiment allé chercher, comme on l'a dit, surtout au niveau cinéma, comme vous l'avez vu, surtout avec Marvel et avec Lucasfilm, là, énormément, et plus récemment le 21st Century Fox, là, mais énormément de contenu, énormément de capacité, justement, de continuer à produire des films. Et comme on l'a dit, dans cette logique de cascade-là, amener des talents, amener l'expertise de Pixar qui était énorme en animation et que Disney tirait de l'arrière sans bon sens pendant plusieurs années. Donc des acquisitions ciblées pour des compétiteurs qui ont des technologies ou de l'innovation beaucoup plus développées que ce que Disney avait à ces moments-là. Et également avec des talents qui étaient notoires, on l'a mentionné, Iger faisait partie avec ABC, Steve Jobs, etc. George Lucas d'une certaine manière également. Donc amener du monde de qualité qui maintenant font la base de ce qui est Disney, la base de la gestion des différentes divisions de Disney, c'est littéralement des anciens de ces sous-compagnies-là. Et c'est vraiment là que je trouve cette compagnie-là absolument fascinante, au-delà de leur performance, mais vraiment de dire Disney n'aurait pas pu continuer en développant seulement leurs produits, leurs contenus par eux-mêmes. C'est par les acquisitions qu'ils ont pu devenir et se placer à l'ampleur qu'ils sont maintenant. Et j'apprécie beaucoup cette stratégie-là. On en avait parlé dans un autre portrait de compagnie qui était Couche-Tard, Alimentation Couche-Tard, qui était axé à 100% également, si on peut dire, la croissance était générée par des acquisitions. C'est un petit peu ça également qui est arrivé. C'est d'être un peu, en anglais on dit bold, là, mais de prendre un risque. C'est des gros investissements financiers. Il y a un risque énorme que ça ne fonctionne pas au final. Mais au fur et à mesure d'en faire une, puis deux, puis trois, puis quatre, à des 5, 6, 7, 8, 9, 10 milliards de dollars US par acquisition, Disney est devenu une entité qui, comme tu l'as dit, est fortement diversifiée, mais est également, encore une fois, axée sur des expertises de compagnies qui ont fait leur chemin et, j'en parlerai sous peu, qui sont gérées pour leur expertise et pour leur indépendance. Pixar existe encore comme entité. Elle fait partie du giron de Disney, mais c'est une entité qui fonctionne encore selon leur manière. Donc, Iger a toujours fait des acquisitions, mais n'a pas voulu tout mettre sous le même chapeau directement, pas mettre la même culture, vraiment continuer à maintenir les expertises dans les compagnies acquises. Donc, très intéressant comme vision, très intéressant comme croissance. Puis, je sais pas, Gab, si tu as quelques points à rajouter là-dessus. Là.
Ouais, j'aurais peut-être rajouté quelques points sur quelques-unes, en tout cas, des filiales que t'as mentionnées. Ce qui est assez drôle, en tout cas, avec Disney, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils font pas mal aussi, c'est ça, de joint venture, on l'a dit, en partenariat aussi avec d'autres, en tout cas d'autres entreprises spécialisées dans les médias. Donc, le bon exemple, c'est que tu l'as bien dit, Hulu, je trouve que ça, on l'a passé assez rapidement, mais c'est un des services de streaming les plus populaires aux États-Unis. D'ailleurs, je crois que Disney offre un package qui inclut Hulu, Disney+, et ESPN+, parce que les trois font, disons, partie de la grande famille Disney. Mais Disney possède que seulement des deux tiers des actions. L'autre tiers est détenu par NBC, donc qui est un géant, en tout cas, qui est un network américain, d'ailleurs, on appelle ça. Parce que, pour rappel, pour nos auditeurs, peut-être européens, qui ne sont pas au courant, les networks, à la différence d'une chaîne de télé, comme on peut avoir, par exemple, en France, comme TF1, par exemple, ou n'importe laquelle, c'est que chaque radio qui est affiliée, en tout cas, ou station de télévision qui est affiliée à ce network est indépendante. C'est juste que tu as certains programmes qui sont en commun, par exemple, je sais pas, avec NBC, bah, par exemple, là, ce soir, par exemple, le Super Bowl, tu l'as bien dit, par exemple, il va être diffusé sur NBC, donc toutes les chaînes membres seront là-dessus. Donc c'est quand même ça fait en sorte que tu as un énorme réseau de stations qui sont dépendantes, évidemment, de la programmation que tu vas faire. ABC aussi, il est le cas, c'est un des gros, très gros networks. Et tu vois, là, ils ont 33% à NBC, donc avec Hulu. Donc, ils partagent un peu leurs risques. C'est ça qui est assez rigolo. Tu l'as passé rapidement, mais Lucasfilm, je pense que c'est évidemment une très, très grosse acquisition. Puis, c'est bien réfléchi quand ils ont acheté Lucasfilm. Disney avait en tête qu'ils allaient sortir une nouvelle trilogie qui, au final, est désastreuse. Tu connais mon opinion là-dessus, mais elle est désastreuse pour les fans de la saga comme moi qui sont ont été très, très, très déçus. Pour être franc avec toi, moi, je me suis arrêté au premier de la nouvelle trilogie. Je dis, bon, c'est bon, ça va. J'ai compris c'était quoi, là. Mais il faut avouer que ça a été un très gros succès commercial. On sait que ça jouait à guichet fermé. Hein. C'était avant la pandémie, là. Donc, ça jouait à salle fermée, évidemment, avec beaucoup de produits dérivés. On sait que les franchises comme, par exemple, Star Wars ou même Pixar sont des franchises qui vont travailler beaucoup avec les produits dérivés, les jeux, etc. Tu vois, quand tu as les enfants qui ont commandé à Noël les Lego Star Wars ou les trucs comme ça, tout ça, c'est des revenus publicitaires. Il ne faut pas penser qu'ils achètent ça gratuitement pour les fans de la saga. Ils s'en foutent des fans. Ils veulent juste... Ils veulent juste faire de l'argent, mais évidemment, ça a relancé une franchise qu'il faut avouer était un peu à l'arrêt. Mais bon, certains seront contre, certains seront pour, etc. Mais bon, rendu là, c'est un choix, encore une fois, qui est très personnel. Moi, personnellement, je ne l'ai pas trop aimé. Et tu l'as dit récemment, bah, Fox, le 21st Century Fox, bon, tout le monde connaît ce logo. Tout le monde connaît ce jingle-là. Et pourtant, c'est quelque chose qui est emblématique et évidemment qui... Attention, par contre, ils ont acheté Century Fox, c'est-à-dire la société de promotion, en tout cas de films. Ils n'ont pas racheté Fox, qui est le réseau télévisé, qui, pour le coup, est encore indépendant, qui appartient à Rupert Murdoch, donc News Corp. Donc c'est ça que je trouve assez drôle, c'est que c'est ça. Ils partagent les risques, ils sont assez malins, ils font du M&A, ils grossissent. mais tout est réfléchi, si tu veux. C'est pas des transactions qui sont faites, évidemment, pour rien faire, si tu veux. Comme malheureusement, c'est parfois le cas, tu vois, quand on fait de la fusion-acquisition. Tu dois toujours avoir un motif, un rational, comme on dira en anglais. Et là, pour le coup, c'est vrai que c'est assez malin, ce Disney. En revanche, alors là, c'est peut-être mon seul point de critique, puis je pense qu'on pourra passer à la deuxième partie par la suite, si tu le veux, JP. Mon point de critique, quand même, que je peux avoir, c'est que bon, c'est bien beau d'avoir de la croissance par acquisition, mais à un moment donné, quand t'as plus rien à manger, bon, bah, ça devient compliqué. Et ou soit tu vas te commencer soit à payer trop cher pour chacune de ces acquisitions-là. On vous avait expliqué d'ailleurs avec JP il y a quelques épisodes de ça, des fameux EV, EBITDA, etc. Tu vas commencer à acheter des sociétés à des très très gros multiples, ce qui fait que, bon, bah, tu peux parfois même perdre de la valeur, donc ce qui est un peu décevant. Et la question est de savoir, bon, une fois que tu as fait ces acquisitions, très bien, tu as beaucoup plus de croissance, mais est-ce que cette croissance-là, elle est pérenne? Est-ce qu'elle va être sustainable, comme on dit en anglais? Est-ce qu'elle va se prolonger pendant très longtemps, pendant des années? C'est aussi des choses que les investisseurs ils vont regarder. Et c'est pas surprenant qu'aujourd'hui, l'action, bon, alors elle a repris un petit peu là, depuis quelques semaines à la publication des derniers résultats, là, mais je peux te le ressortir, tu vois. Tu as eu une remontée qui était à peu près à 135 avant l'annonce des résultats. Là, on est à peu près à 150. Mais il faut rappeler que au début de l'année passée, là, il y a eu une catastrophe. Là, il y a eu en fait un ralentissement des nouveaux abonnés de Disney+. On sait que la concurrence est très 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 serrée, hein, évidemment, dans les services de streaming entre Netflix, Amazon Prime. Évidemment, je pense que Disney+ est le troisième joueur avec Hulu. Là, on va tout prendre en compte. Mais il y a plein de nouveaux petits entrants. Les gens, souvent, bah, ça les embête d'avoir quatre services de streaming à payer. Je sais que moi, ça me, tu vois, je partage mes comptes. Moi aussi, je diversifie, tu vois, mon risque, mon exposition. Je partage mes comptes avec d'autres amis. Tu vois, c'est vrai que c'est un peu pénible. Et je pense que c'est une source aussi où les gens, bon, ils vont être très contents d'avoir Netflix qui, je pense, aujourd'hui, a le plus gros catalogue en termes de divertissement. Mais c'est assez pénible de se dire, bon, je vais devoir re-racheter un autre service, etc. Puis j'ai un autre abonnement, par exemple, pour les jeux vidéo, etc. Et ça fait qu'au final, tu as 60 $ d'abonnement qui passent tous les mois et tu t'en rends même pas compte, tu veux. Et je pense que c'est un des sources de risque, on va dire, au niveau évidemment, de ces services d'OTT, parce que c'est facile d'annuler. Alors que par le passé, avec le câble, bah, on sait que tu peux pas couper le câble comme ça ou le satellite. Évidemment, ça coûte des frais pour que le technicien vienne, te coupe le câble et puis revienne, etc. Si jamais tu veux te réabonner. Donc, c'est une clientèle qui n'est pas aussi fiable que ce l'était par le passé avec la télévision câblée, où pour le coup, c'était un peu du revenu perpétuel. Là, tu es évidemment pas mal sous pression, évidemment, de tes clients qui veulent du contenu, veulent plus d'entertainment. Et il faut toujours leur offrir des catalogues qui sont de plus en plus coûteux, etc. On sait que Netflix, par exemple, dépense des milliards chaque année en création de contenu. Donc, évidemment, c'est pas gratuit. Donc, en tout cas, on pourra regarder ce que ça va donner par la
Exact.
suite.
Exact. Mais tu sais, il y a beaucoup de complications, tu l'as dit. L'excellent point à soulever au niveau Disney, c'est la cascade. On l'a dit, toutes les acquisitions étaient très ciblées. On fait des revenus pour le cinéma, ça découle de revenus vers la télévision et vers les parcs et les marchandises, comme on l'a dit. L'enjeu, qu'est-ce qui se passe avec le cinéma présentement? C'est quoi l'évolution du cinéma post-pandémie? Encore une fois, avec, tu l'as dit, les services de streaming, il y a moins de monde qui vont aller en salle. Encore une fois, il y a tellement une transition importante qui est dans le pain et le beurre de cette compagnie-là. Si le cinéma ne va pas bien, on le dit, Disney historiquement ne performe pas si bien. Donc, est-ce que le nouveau gestionnaire, justement le nouveau CEO, va être en mesure de justement être visionnaire, encore une fois, comme l'a été Iger? Est-ce qu'il y a encore, comme tu l'as dit, du contenu d'acquisition à bonne valeur pour Disney qui est possible? C'est vraiment quelque chose qui est notoire. C'est ce qui est intéressant dans des compagnies justement qui grossissent par acquisition. C'est à un certain point, ils peuvent pas toujours avoir des succès. T'sais. Il y a tellement eu de succès dans les acquisitions de Disney, il y a tellement eu de bonnes intégrations et de bons revenus qui en ont découlé sous Iger pendant les 15 dernières années. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec la nouvelle logique, avec la nouvelle réalité? Et on le dit, avec l'importance du cinéma pour Disney, c'est très intéressant à suivre. Donc c'est un petit peu le volet qu'on voulait vous donner, encore une fois, tiré là, sur le fait que j'ai adoré effectivement le livre là, que Robert Iger a publié là, pour son départ à la retraite. Vraiment une gestion très intéressante. J'aime ce genre de croissance-là qui n'est pas juste une croissance interne, mais qui est très axée sur des acquisitions. Donc on pourra en faire d'autres effectivement s'il y a d'autres cas. Et Disney, bien évidemment, compagnie d'envergure, on l'a dit, qui reste encore une fois un top au box-office, qui est ESPN et numéro 1, comme on l'a dit, dans le monde des médias sportifs et numéro 2-3 des streamings dans le monde télévisuel slash Netflix, dans le monde des streamings de télévision. Donc,
service OTT, c'est le nom exact.
OTT, voilà. Mais compagnie d'envergure, donc assez intéressant à suivre. Faites-vous plaisir si vous voulez trouver plus d'informations à ce sujet ou, comme on l'a dit, le livre de M. Iger, qui est quand même une très bonne lecture à faire pour ceux qui aiment les biographies. Passons maintenant à notre deuxième sujet, qui est l'instant économie. Parfait. Donc, on vous l'a moussé un petit peu là, en prémisse de l'épisode, dans l'introduction de l'épisode. Là, on voulait vous parler d'un aspect du Super Bowl. Vous connaissez le podcast. On ne va pas vous parler des fiches techniques sportives des différents joueurs. Là. On est très axé sur le domaine financier. Donc, on veut vous parler un peu, et le sujet est assez simple, l'aspect financier du Super Bowl. On sait que c'est, comme on l'a dit, les Américains vont toujours présenter ça comme étant l'événement sportif par excellence sur une base annuelle. On s'entend qu'il y a les Olympiques qui se produisent en même temps, donc il y a un débat connu entre quel est le plus grand événement cyclique au monde. Est-ce que c'est le Super Bowl à chaque année ou les Olympiques aux 4 ans ou aux 2 ans, dépendamment de si vous voulez qu'on parle d'été-hiver. Donc ça, c'est un débat qu'on ne lancera pas ce soir, mais c'est effectivement là, de voir un peu à quel point est-ce que l'envergure du Super Bowl n'est pas ce qui se passe sur le terrain. Moi, je suis passionné par ce qui se passe sur le magnifique gazon présentement du SoFi Stadium de Los Angeles dans les prochaines heures, mais la majorité de l'auditoire, les plus de 100 millions de personnes qui vont suivre cet événement-là, ben, il y en a plusieurs que ce n'est pas des fans de football du tout et qui sont plus là pour le show de la mi-temps, le fameux spectacle épouvantable qui dure à peu près une demi-heure alors que tout ce qu'on veut voir, c'est du football. Ça, c'est mon avis, qui est sponsorisé.
T'es dur, t'es vraiment dur parce que je trouve que c'est l'aspect le plus intéressant du Super Bowl.
C'est ce qui ajoute encore une fois, mais c'est vraiment, il y a des personnes et c'est là vraiment que l'argent est à faire. Ce n'est pas sur ce qui se passe sur le terrain forcément, mais vraiment les sponsors de mi-temps, les sponsors justement des différentes pauses qui rentre en ligne de compte. Et cette année particulièrement, c'est une année qui est bien différente parce que je vais nommer quelques compagnies, puis Gab, je te laisse la parole par la suite. En général, lorsqu'on parle du Super Bowl, on entend Budweiser, on entend Frito-Lay, on entend des compagnies que c'est plus est-ce que je prends une bière, un soda et des chips, qu'est-ce que j'ai le goût d'aller acheter au dépanneur du coin pendant la mi-temps par exemple. C'est beaucoup moins ça cette année, beaucoup plus axé sur ce que certains vont nommer le Crypto Ball, donc l'avènement des sponsors de cryptocurrency, et on en parlera sous peu, et également du sports gambling, donc des paris sportifs, qui aux États-Unis est en effervescence assez incroyable avec les FanDuel de ce monde, avec les DraftKings de ce monde, avec les Barstool Sportsbook, peu importe, là, c'est littéralement le nouveau pain et le beurre de l'entertainment et de l'argent. Donc c'est très intéressant en termes financiers de regarder ça au-delà du coût, par exemple, des revenus qui découlent du Super Bowl, mais c'est beaucoup sur on publicise le fait de faire de l'argent sans vraiment parler de risques. Faire de l'argent dans les cryptos en ayant un compte sur FTX ou Coinbase, faire de l'argent sur DraftKings en mettant un bet sur est-ce que le pile ou face va être pile ou face. C'est ridicule un peu parce qu'au lieu de juste dire t'as besoin d'avoir des chips nature, c'est plus maintenant t'as besoin de mettre ton argent dans des d'investissement alternatif, mais on ne parle pas du tout du risque réel qui existe, donc c'est voilà, hyper c'est risqué.
Peut-on parler réellement d'investissement ou c'est du gambling?
Investissement, effectivement, on n'a pas de format de podcast version vidéo. J'avais des astérix assez notoires avec mes doigts en même temps que je disais ça, là, mais c'est quand même assez risqué parce que, comme on l'a dit, la base d'auditoire qui est présente pour le Super Bowl, qui n'est pas là pour écouter le football, encore une fois, va être... T'sais, le but, c'est de faire des pubs pour les toucher, pour que quelqu'un le lendemain aille s'ouvrir un compte sur Coinbase, par exemple. Donc, c'est le risque de dire, plutôt que d'être sur des biens de consommation normale, là, on parle de biens, entre guillemets, financiers, et on ne parle pas du tout de risque, on parle de la beauté de devenir millionnaire en achetant du Bitcoin. C'est un petit peu ridicule, et c'est ce qui m'inquiète, et c'est ce que je vais également porter attention durant le Super Bowl, même si, effectivement, je suis un fan du contenu sportif et non du contenu publicitaire, mais cette année particulièrement, j'avoue que ça m'intéresse de voir à quoi vont ressembler ces fameuses pubs-là et cette fameuse mi-temps-là.
Ouais, d'autant plus que les pubs sont à leur record en termes du coût aux 30 secondes. On sait que c'est le Super Bowl, c'est un peu la grande messe, on va dire, de la nation américaine, même plus généralement. Même si, tu vois, ça a un impact au-delà du sportif, parce que même... c'est vraiment un événement, je te dirais, national, comme peut l'être par exemple la Coupe du Monde de la FIFA. Je pense que c'est vraiment des compétitions qui dépassent, tu vois, le contexte sportif, même si je pense que la finale de la Coupe du Monde de la FIFA, c'est souvent l'événement le plus suivi dans le monde, et puis évidemment les Les Jeux Olympiques, je dois t'avouer, je pense pas non plus que c'est pas très télévisuel, étant donné qu'il y a tellement d'épreuves que bon, c'est difficilement un comptable. Mais là, pour un événement, le Super Bowl est évidemment une machine à fric, parce que c'est évidemment très très cher déjà de se rendre évidemment au stade. Je crois que les places partaient pour des dizaines de milliers de dollars là pour juste regarder un match. Donc ce que je trouve.
Pour un stade de comme 50 000 places, c'est ça qui est épouvantable.
Bah, c'est ça, et puis surtout que bon, Los Angeles, bon, après ils vont rentabiliser évidemment leur nouveau stade qui vient d'être construit, en fait qui a été construit l'année dernière, juste malheureusement pendant la pandémie. Le Super Bowl a dû être déplacé d'un an, en fait toutes les dates ont dû être déplacées d'un an parce qu'il était censé l'héberger l'année passée. Donc, ouais, cet événement évidemment, ça va être suivi évidemment par des millions d'Américains, en fait des centaines de millions d'Américains. Plus évidemment partout dans le monde, je dois t'avouer, c'est un des rares événements sportifs aussi américains qui est suivi à l'extérieur aussi des États-Unis. On sait que les autres grands sports américains, bah, je pense que la NBA s'exporte très bien à l'étranger, étant donné que c'est un sport quand même qui se joue partout. Alors tu vois, la Série mondiale, donc on en avait parlé avec Liberty Media, la Série mondiale, donc les World Series de baseball, c'est un sport très américano-américain, à part au Japon, je crois, où ils sont très bons en baseball. Et le hockey, bon, qui, ça c'est, on le sait, c'est plus au Canada et aux États-Unis qu'on va regarder ça, peut-être même dans quelques pays nordiques. Le Super Bowl est vraiment suivi, je te dirais, partout dans le monde, même si, tu vois, c'est plus le côté entertainment qui a repris, on l'a bien dit, le spectacle de la mi-temps, évidemment, vraiment l'apocalypse, excuse-moi, j'ai perdu le terme, mais vraiment le summum, je dirais, de l'entertainment à l'américaine. Qui a un show qui est plus suivi que le match, en fait, étant donné que souvent c'est des animations complètement folles avec des artistes, comment dire, de renom. Donc je crois que cette année c'est Dr. Dre, Snoop Dogg et je crois qu'il y a Eminem aussi qui va venir sur
Eminem,
scène.
Kendrick Lamar et Mary J. Blige,
Ouais, c'est fou,
effectivement.
c'est fou, tu vois. Je sais que, tu vois, il y a quelques années, bah, toutes les grandes stars se sont produites, Katy Perry, Lady Gaga, Coldplay, je me souviens, il y a quelques années, il y avait eu. L'horrible, comment. T'avais eu. Excuse-moi, c'est pas un jugement de valeur, mais il y avait Justin Timberlake, c'était atroce son show, là, c'était vraiment pas bon. Il y avait Maroon 5, je crois, il y a quelques années aussi. Bruno Mars aussi, qui en avait fait une fois, mais tu vois, et c'est vraiment le. Pour te dire, vraiment le show à l'américaine par excellence, tu vois. Donc souvent, c'est des spectacles de musique, etc. Et les fameuses publicités, donc 7 millions de dollars les 30 secondes. Et évidemment, Budweiser, tu l'as bien dit, mais toutes les compagnies américaines font des pubs durant le Super Bowl. Geico, qui est très connu pour son 15 minutes, vont faire économiser 15% sur ton assurance, etc. On les connaît tous, ces publicités-là. Et ça fait partie, évidemment, je te dirais de la culture américaine de manière très large, qui est un peu une société de consommation par excellence. Et ce qui est assez drôle quand même, c'est que le Super Bowl commence à prendre, si tu veux, à l'étranger. Moi, c'est ça que je voulais, pour mon côté, axer. Hein. Toi, tu avais axé plutôt JP, c'est vrai, sur l'apparition de ces nouveaux sponsors. C'est vrai que les cryptos, on sait que d'ailleurs que le Staples Center de Los Angeles a été renommé crypto.com
Crypto.com, ouais.
Arena. Donc, tu vois, il y a une trend qui est assez inquiétante, je dirais, moi. À mon opinion, encore une fois, ne me jugez pas là, mais c'est mon opinion personnelle pour le coup. On le sait, le podcast, c'est nos opinions personnelles. Des fois, ça, il y a des conflits d'idées, c'est correct, ça fait partie évidemment de l'expérience de l'état financier. Et oui, ça s'exporte à l'international, c'est ça qui est fou. De plus en plus de gens écoutent le Super Bowl, même tu vois en France, pour avoir justement cette expérience à l'américaine, le show de la mi-temps. Pour aller voir Beyoncé, Shakira, que tu vois, j'avais oublié, etc., qui ont toutes fait évidemment des représentations durant cette kermesse du Super Bowl. Donc on a hâte de voir donc les deux équipes, juste pour remettre en perspective, donc ce soir qui vont se présenter, ou peut-être demain matin si vous nous écoutez, vous saurez déjà qui est champion du monde. Donc on a gagné le Super Bowl parce que c'est un
Effectivement,
championnat.
nommé World Champ étant américain, même s'il y a du football même si c'est du football américain ou à l'américaine au Canada et en Europe et un peu partout, non, c'est effectivement tu es World Champ ce soir sans qu'il y ait aucune équipe d'aucun autre pays que les États-Unis, ça c'est la beauté américaine.
Exact, exact. Et puis d'ailleurs, sais-tu, JP, je vais raconter une anecdote, mais je pense que je te l'avais déjà dit. Le football américain s'appelle football pour une raison très bête, c'est que la taille du ballon fait approximativement un pied
Absolument.
en réalité, et non pas un jeu qui se joue au pied, tu vois. Les gens disent, ah mais non, Le football, non, il y a pas de, y a pas de, on joue pas au pied. Non, c'est parce que la balle fait mesure un pied, qui c'est beaucoup plus un jeu où tu fais beaucoup plus des passes, des courses, etc. Donc, faut arrêter de, faut parfois se renseigner un peu pourquoi ça s'appelle comme ça. Donc, ça va être un événement évidemment à suivre pour ceux qui se trouvent sur le même fuseau horaire que nous. Pour ceux qui sont déjà en train de dormir, bah écoutez. Dommage, vous allez regarder le résumé demain matin, peut-être pour ceux qui vont veiller tard pour suivre. Je sais qu'il y a des gens, moi, vous le savez, on l'avait dit, je pense déjà, dans le podcast, qu'on était, nous de notre côté, avec JP, on est beaucoup plus sport de combat, je dois t'avouer, on regarde quasiment tous les événements de l'UFC ou par exemple de la boxe, etc. Je sais que par exemple, avec le fuseau horaire, tu es obligé de regarder à 5h, 6h du matin, donc ce qui est pour le coup pas très pratique. Mais c'est à peu près, sera à peu près aux mêmes heures, donc du coup pour le Super Bowl ici qui va être diffusé donc depuis Los Angeles avec et qui étrangement d'ailleurs pour la première fois je crois à part l'année passée parce que c'est une exception étant donné le contexte sanitaire, pour la première fois que c'est l'équipe qui se qualifie l'équipe hôte qui se qualifie en fait pour la finale, donc ce sera à suivre évidemment. Pour le moment, donc c'est les Rams de Los Angeles qui sont favoris pour aller gagner la coupe. On verra ce que ça va donner contre les Bengals de Cincinnati. Donc c'est à suivre et je pense que ça va nous promettre évidemment un show intéressant là.
Exactement. Donc c'est un peu ça. Moi, c'est le seul bémol et c'est l'aspect financier, comme on l'a dit. C'est n'oubliez pas, si les publicitaires ont intérêt à payer aussi cher, à payer 7 millions pour 30 secondes de publicité, c'est qu'il y a encore une fois un intérêt à ce que vous utiliser leurs services ou acheter leurs produits. Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas oublier, malgré la belle soirée, les beaux shows, etc., là, mais il faut pas oublier effectivement là, qu'est-ce qu'on achète et qu'au final, le but, c'est de justement rejoindre la plus grande proportion de consommateurs influençables, entre guillemets. Donc souvenez-vous de ça, faites attention. Surtout cette année, encore une fois, notre opinion transparaît un petit peu. On dirait que j'ai moins de problèmes lorsqu'on me vend des chips et des sodas que lorsqu'on me vend des chips et sodas et des plateformes de betting online ou de cryptocurrency, là. J'avoue que cette année, c'est quand même à noter. Donc, mettez-vous en astérisque, je vais le faire personnellement et encore une fois, j'en parle à mes amis, à mes connaissances également de ne pas sortir trop influençable parce que ça pourrait être un coup et encore une fois, pour ces compagnies-là, c'est de devenir en bon anglais mainstream, là. C'est l'événement le plus important de l'histoire de Coinbase, de l'histoire de FTX, de l'histoire de Crypto.com, de l'histoire de Barstool, Sportsbook, etc. Là. Peu importe qui
Après, on
c'est.
leur fait la pub. Là, on leur fait de la pub en ce moment
D'une
même,
certaine
mais.
manière, mais en même temps, on dit un petit peu notre opinion qui va à l'encontre de ce qu'ils font, là.
Après.
Mais techniquement, c'est à noter. C'est le Super Bowl, mais il faut se souvenir de ce qu'on nous,
Ouais.
du produit, encore une fois, qu'on essaie de nous vendre, qui n'est pas seulement deux équipes qui se rentrent dedans pendant plus de 50 minutes.
Ouais, après, juste pour terminer, évidemment, pour une tranche opinion, puis après, je pense qu'on pourra rendre l'antenne parce que je vois que le temps file, mais faut pas oublier évidemment que si c'est gratuit, c'est vous le produit, hein. C'est toujours la règle. Tu penses vraiment qu'ils vont te diffuser du contenu pour que tu te, pour que, entre guillemets, tu regardes l'écran. D'ailleurs, je crois que c'était Monsieur Patrick Lelay, si je ne m'abuse, qui était l'ancien président de TF1. On vous vend du temps de cerveau disponible, c'est ça le but de la publicité, hein, et
Du
de la
pain et des
télé.
jeux, hein. D'une certaine manière, on revient à l'Empire romain, du pain et des jeux, à un certain niveau.
Exact, exact. Tout ça, c'est conçu évidemment pour te faire consommer tout un tas de produits. Et tu vois, bon, on a dit crypto, etc. Mais bon, si c'est de la bière aussi, enfin,
Oui,
vous
non,
êtes
à un
pas, vous
certain niveau,
avez,
c'est pas mieux. Ouais.
voilà, c'est pas mieux. Genre, tu sais, c'est pas mieux de, comment dire, d'aller te saouler la gueule et de conduire. C'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Donc, bref, soyez grand, soyez, utilisez votre libre arbitre. Je pense qu'il n'y a rien de mieux, évidemment. Dans la vie que d'avoir son propre jugement et puis ça va bien se passer. Moi, je pense que ça va bien se
Exactement.
passer et
Non,
en tout cas.
absolument. Mais le Super Bowl est un événement polarisant, encore une fois, et qui va bien au-delà du sport. C'est ce qui est quand même assez magique avec cet événement. On doit le noter. Donc, encore une fois, la bonne écoute pour ceux qui l'écouteront. Je serai fidèle à mon poste dans à peu près 1 heure pour le botté d'envoi. Mais d'ici là, et pour conclure ce magnifique épisode, Gab, je te rends à nouveau la parole là, pour faire le mot de la fin, les remerciements, et également où est-ce qu'on peut les retrouver comme d'habitude là, pour cette continuité du podcast là, qui continue à se rapprocher de sa deuxième année d'existence.
La continuité du podcast continue, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pensé là quand tu l'as dit. Mais n'oubliez pas évidemment de partager notre contenu si ça vous a plu, à vous abonner en tout cas sur les chaînes audio, donc Spotify, Apple Podcast. Overcast, Google Podcast. Sinon, vous avez la chaîne YouTube qui est à votre disposition. Vous pouvez toujours nous contacter. C'est la meilleure façon, d'ailleurs, en passant, de nous contacter. Donc, laissez un petit commentaire, un petit like, puis de le partager aussi à vos amis si ça les intéresse, en tout cas, d'apprendre un peu plus sur la finance ou de participer, entre guillemets, au débat qu'on peut avoir à chaque semaine. Ça nous fait grand plaisir et, tu vois, on le fait avec la bonne humeur, etc. Moi, tu vois, je trouve que c'est un moment de la semaine que j'apprécie beaucoup. Et tu vois, en tout cas, je remercie les auditeurs pour être aussi fidèles au podcast. Absolument. Et en attendant, je vous souhaite à tous une très belle semaine. Et merci.
Bonne semaine tout le monde.
Salut.